Chapitre 40. Il s'était enfermé dans la voiture de Scotty au calme, le moteur au ralenti pour s'offrir un peu de chauffage. À l'arrière, Serge avait menotté le bras gauche du suspect à la poignée de maintien. Charcot se tenait à l'avant, côté passager, observant les deux hommes dans le rétroviseur. Il commençait à peine à prendre conscience de ce qui venait de se passer, de la situation dans laquelle Amandier l'avait entraîné. Il aurait pu y laisser sa peau. Franck le savait. Rien de ce qui se déroulait ici ne serait retranscrit dans les PV. Officiellement, leur petite virée le long de la N20 n'existerait pas.
« Je veux pas d'emmerde », grommela Scotty. « Je déballe tout à une condition. Vous vous cassez de là après. Vous parlez pas de moi et je vous revois plus jamais, d'accord ?»
Le rouquin avait l'arcade gonflée et du sang sur le menton. Serge planta une cigarette entre les lèvres de son voisin et l'embrasa. Il s'en alluma une également. Dans un réflexe, il entendit une à Charcot qui déclina. Alors il rempocha avec calme son paquet. Chaque mouvement était mesuré, et Franck repensa à ce qu'ils avaient vécu dans la maison. À présent, le prédateur, c'était son collègue.
« Ça dépendra de la qualité de tes informations », lâcha enfin ce dernier.
Le type fit rougeoyer l'extrémité de sa cigarette, le temps d'une longue bouffée. Dans son geste, une chevalière en argent brilla à son annulaire droit. Puis il répondit d'une voix nasillarde, qui, en d'autres circonstances, aurait prêté à rire.
« C'est de la bonne info, crois-moi. J'ai déjà eu affaire à des gars du 36 et je sais que vous êtes réglo. Vous avez de l'honneur. Mais je veux quand même des garanties. »
Serge fit mine de réfléchir. Scotty était du genre à balancer pour sauver sa peau.
« Ok, mais tu ne la fais pas à l'envers, pas de tuyau bidon. »
« Lui aussi, »
fit Scotty en désignant Charcot de sa main libre. Celui-ci hocha la tête.
« On s'est jamais rencontré, t'existe pas. »
La face tuméfiée de leur suspect se détendit un peu.
« D'accord. Ça s'est passé il y a environ 2 mois. D'habitude, personne vient chez moi pour les affaires. Je donne des rendez-vous, je vends la marchandise, on paie en cash et basta. Mais elle, elle a débarqué comme ça. Elle avait entendu dire que je faisais dans l'exotique. Elle m'a foutu les jetons. Elle avait quelque chose de bizarre dans le regard. Des pupilles qui mangeaient presque tout l'œil. Une sorte de gouffre, comme si elle voyait à travers toi. Je sais, c'est débile, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti.
« Qui ça, elle ?» intervint Serge.
« L'acheteuse. » Une noire, les cheveux tressés et tirés en arrière comme des tentacules de pieuvre sur son crâne. Des immenses anneaux dorés aux oreilles. Je me souviens, j'ai tout de suite pensé à une espèce de jeteuse de sorts, de prêtresse qui lit en toi et qui joue avec les esprits des morts. Ce genre de conneries.
Grande, petite, grosse, t'as un nom?
Un nom? Tu déconnes? Je sais même pas comment elle a réussi à me trouver, ni comment elle est venue jusqu'ici. En tout cas, elle était... Ouais, assez grosse, mais pas énorme non plus. Environ 1m60, nez écrasé... Elle parlait pas mal le français. Pour le reste, je m'en rappelle plus.
Quel âge?
Je dirais une 50aine d'années.
Elle voulait des grenouilles?
Ouais. Deux belles leucomélas, bien toxiques. J'ai pas posé de questions, c'est la règle. J'ai mis les bestioles dans des boîtes transparentes que je fabrique moi-même pour le transport, avec des trous pour que les bêtes respirent. Elle a lâché le pognon et elle est partie avec la mort dans son sac. Point barre. Je l'ai plus jamais revue et je sais pas ce qu'elle a fait de mes copines.
D'où elles viennent tes bestioles? Demanda Charcot sans quitter le rétroviseur des yeux.
Le Havre, des cargos. J'ai mes contacts, mais je les balancerai pas.
On s'en fiche d'eux, répliqua Serge.
Ce qui nous intéresse, c'est la noire, et ton histoire de rite vaudou.
Félix Scotty baissa la fenêtre de sa main libre et jeta ses cendres à l'extérieur.
Ça fait plus de 10 ans que je me rencarde sur tout ce qui tourne autour des différentes espèces d'animaux dangereux. Leur mode de chasse, l'efficacité et l'action de leur venin me fascinent. Neurotoxines, hémorragines, substances histaminiques, je suis incollable. Le Graal, c'est la tétrodotoxine. La TTX.
Il fit traîner la dernière lettre, et Franck eut l'impression d'entendre le Mamba siffler.
Imaginez, la TTX est 200 000 fois plus puissante que le curare. 20 mg suffisent à refroidir un homme. Au Japon, les gourmets peuvent en ressentir les effets quand ils mangent du fugu, aux entrailles bourrées de ce poison. Picotement sur les lèvres, langue anesthésiée. Le plat est d'ailleurs préparé par des cuisiniers qui doivent avoir une licence accordée par l'État. Car des gens sont déjà morts en bouffant leur poiscaille. La faute à un mauvais dosage. C'est pour ça que l'empereur et les samouraïs n'ont jamais eu le droit d'en avaler une seule bouchée. On s'en fout des Japonais, arrête avec tes cours de cuisine, va au but.
Scotty agita son bras prisonnier.
Tu peux m'enlever ça avant? Tu sais, je suis d'origine italienne, on cause avec nos mains, nous.
Serge se pencha pour le libérer.
D'origine seulement alors, parce que t'as autant la gueule d'un Italien que moi celle d'un Turc.
Scotty se massa le poignet sans sourire.
J'ai des tas de revues sur les animaux exotiques. Je pique de la doc dans les bibliothèques. J'ai pas l'air, mais je lis beaucoup.
Il y a des bouquins partout à l'étage de la baraque. Joue pas avec mes nerfs, abrège. Ouais, minute. Faut clairement expliquer les choses, étape par étape. Parce que sinon, la suite pourrait ressembler à de la science-fiction. C'est au milieu des années 80 que je suis tombé sur ces histoires de Rick Vaudou. Et notamment sur un article qui parlait de l'existence d'une poudre à base de TTX, fabriquée par les prêtres vaudous haïtiens pratiquant la magie noire. Là-bas, on les appelle les beaux corps, pas des rigolos. Le genre de mec qui lance des sorts et qui vaut mieux pas avoir comme ennemi. Charcot visualisait sans mal la scène. Les pattes de poulet accrochées aux portes, les poupées plantées d'aiguilles. Ce qu'il pensait n'être que du folklore tout droit sorti de l'imagination des producteurs de studios hollywoodiens prenait ici des allures d'étranges réalités. Bref, j'ai creusé le sujet et j'ai découvert le travail d'un Américain qui s'appelle Wade Davis. Un ethnobotaniste, c'est comme ça qu'on dit, un spécialiste des substances toxiques qui s'est surtout intéressé aux pratiques vaudoues en Haïti, en particulier à la zombification. Il est allé sur place pendant des mois, s'est intégré à la population locale et s'est rendu dans les zones les plus reculées du pays. Serge se frottait nerveusement les mains. Il piocha une flasque argentée au fond de sa poche, en dévissa le bouchon et but une gorgée. « J'en veux bien une goutte », réclama Scotty en se passant la langue sur les lèvres. « J'ai pas envie d'attraper des microbes, continue. » Son interlocuteur fixa la flasque jusqu'à ce qu'elle disparaisse de sa vue, puis reprit. « On ne connaît pas le secret de la poudre, personne. Selon Davis, il y aurait une dose extrêmement précise de TTX, tirée de grenouilles de l'espèce des dentrobates, mais aussi d'autres éléments comme des mille-pattes, des racines, des herbes spéciales, des ossements humains et des minéraux carbonisés, le tout réduit en poussière. » Sa confection prendrait plusieurs jours, avec des rites vaudous par-dessus afin de viser une personne précise ou une famille, ceux qui ont commis une faute à la hauteur de la sentence. Trahison, adultère, acte malveillant envers la communauté, bref. Tout ça, c'est une histoire de vengeance. Et l'ennemi devient zombie. Quand tu dis zombie, c'est comme dans les films. Il va pas te bouffer les entrailles, non. Mais être zombifié, c'est pire que la mort. C'est l'anéantissement d'une vie qu'on remplace par la survie d'un être privé de tout pouvoir de décision. T'as conscience de tout, mais tu peux plus rien faire. T'as l'esprit vide. On dit que ton âme est prisonnière dans des canaries que le beau corps garde enfermées dans une cage. La puissance d'un beau corps se mesure au nombre d'oiseaux qu'il détient. Autant d'âmes qu'il a réussi à voler. Scotty renifla en grimaçant. Wade Davis raconte en avoir croisé quelques-uns des zombies dans la campagne la plus profonde d'Haïti, errant les champs de canne à sucre. De grandes silhouettes courbées et silencieuses, la tête baissée et trop lourde, les paupières mi-closes. De vrais épouvantails. Ils peuvent encore s'alimenter, s'habiller, mais ils font tout au ralenti. Ils sont totalement léthargiques. Socialement, ils sont plus rien. Plus d'existence légale, plus de nationalité, puisqu'ils sont censés être décédés et enterrés. Souvent, ils appartiennent à un maître qui les entretient, les exploite et les frappe à coups de bâton. Des esclaves zombies. Charcot n'aurait pas cru un seul des mots de ce type s'il n'avait pas vu de ses propres yeux Delphine Escrémieux, recroquevillée au fond de sa stalle, vêtue d'un sac de toile. Sa façon de se déplacer et son absence totale de volonté, comme si on lui avait arraché l'âme. Comment on peut être mort sans l'être? Questionna-t-il. Cet entre-deux est impossible. Dans ton monde peut-être, mais dans le leur, non. C'est un truc de fou. D'abord, la poudre fabriquée doit pénétrer dans l'organisme par l'intermédiaire d'une plaie récente, même minuscule. En général, le beau corps fait cacher la mixture par des complices dans les sandales de sa cible, mêlées à de la poussière de verre. Le mec met ses godasses en se levant le matin, ne sent même pas les micro-coupures, et quelques instants plus tard, il s'effondre. La quantité de poison ne le tue pas, enfin, pas vraiment. Le cœur bat très lentement et faiblement, genre 10 fois par minute. La respiration ainsi ralentie est alors imperceptible. La victime a les yeux grands ouverts, mais elle est incapable de bouger, même pas les paupières. Charcot baissa à son tour son carreau. La fumée de cigarette le mettait sur les nerfs. Il avait besoin de rester concentré. Le méticuleux avait-il passé une commande de poudre à cette mystérieuse femme noire? Avait-il ensuite agi lui-même, ou se contentait-il de donner des ordres? En Haïti, ça se passe pas comme ici quand quelqu'un meurt, poursuivit Scotty. La famille fait venir le pseudo-médecin du coin, le gars n'a parfois même pas de stéthoscope. Il fait 2-3 vérifications, déclare le décès, établit le certificat, mais demande aux proches d'attendre 24 heures avant l'inhumation, au cas où le mec se réveillerait. Vous voyez le niveau? Sauf que les beaux corps, ils sont malins. Ils font répandre des liquides puants autour du faux cadavre pour faire croire que ça pourrit et forcer à prendre des dispositions rapidement. Il fait chaud et humide là-bas. Le corps reste pas exposé longtemps. Et on l'enterre vivant, conclut Serge d'une voix grave. C'est ça. Faut imaginer l'horreur du truc. T'as conscience de tout. Quand ta femme, tes enfants chialent devant toi, quand on te colle dans ta boîte et qu'on rabat le couvercle. quand la cérémonie se déroule avec des chants d'adieu, quand tu te retrouves seul, avec de la terre qui tombe sur la gueule parce que ton cercueil, en réalité, c'est quatre malheureuses planches. Le mec vit sa propre mort.
Sans interrompre son voisin, Amandier lorgna dans le rétroviseur pour capter le regard de Franck. C'était ce qu'avait dû endurer Delphine Escrémieux, un enfer gravé à jamais au fond de sa mémoire. Environ deux nuits plus tard, le Bocor et sa bande exhument le bordel. Ils en sortent un être qui est revenu à lui parce que les effets de la TTX ont en partie disparu. Mais avec l'hypertoxicité du poison et le cauchemar qu'il a vécu, le pauvre type a déjà la cervelle bien en vrac. Ils lui remettent malgré tout une dose de drogue pour lui cramer ses derniers neurones. Le gars devient un légume qu'on conduit loin de son village et qu'on abandonne à des exploitants sans scrupules. Il y a eu quelques études faites par des scientifiques que Davis avait amenés en Haïti lors des voyages suivants. Je vous fais pas un dessin. Les Américains ont tout de suite pensé à utiliser ce type de produit pour envoyer des gens faire de longs séjours dans l'espace dans un état de demi-sommeil, ce genre de conneries. Enfin bref, les zombies qu'ils ont pu observer avaient des lésions ou des atrophies au niveau du cerveau, étaient sujets à des crises de schizophrénie et d'épilepsie, sans compter les séquelles au cœur et aux extrémités qui se mettaient parfois à nécroser. Scotty garda le silence quelques secondes, l'œil rivé sur ses mains ouvertes devant lui et taché de s'en sécher. Puis se tourna vers Serge. « Et vous dites que quelqu'un a subi ça? Ici, en France ?»« Le TTX, l'enterrement, à moins de 50 bandes de chez toi. » Le rouquin s'agita sur son siège. Il se perdit un instant dans ses pensées, contemplant sa maison et la lumière qui clignotait dans l'entrée. « Putain !»« Cette noire, ça peut être une bocor, à ton avis? Je veux dire, des femmes aussi peuvent exécuter ces rites-là » L'autre acquiesça. « Ouais, elles sont encore pires que les hommes. Et celle qui a débarqué chez moi, elle m'a vraiment foutu les boules. » C'est évident qu'elle n'a pas acheté les grenouilles pour remplir un étang avec des nénuphars. Serge chercha son carnet dans sa poche, en vain. Fais-lui ton nom et ton numéro de téléphone du bureau, lança-t-il à son coéquipier. Charco s'exécuta. Il arracha une feuille de son propre carnet et y nota les informations avant de tendre le papier plié à Scotty. Demain, expliqua Amandier, tu vas venir au 36 pour établir le portrait robot de la sorcière, et tu te pointes dans la matinée. Je tiens pas à foutre mon réveillon en l'air à cause de toi. Putain, t'avais promis que tu seras pas emmerdé, t'as ma parole. Trouve-toi une excuse pour les coups sur la tronche, on t'a pas touché. T'aides notre technicien à faire le portrait le plus fidèle possible et tu rentres chez toi comme si de rien n'était pour faire joujou avec tes serpents. Scotty secoua la tête, voulut rendre le papier à Serge qui repoussa sa main. Il paniquait. C'est hors de question. Je veux pas être vu avec des poulets ni faire parler de moi. Cette femme, elle est maléfique et elle sait où j'habite. Putain, j'ai pas envie de finir entre quatre planches avec le cerveau en bouillie. Non, j'en ai fait assez. Allez vous faire foutre. Amandier fit signe à Charcot qu'il partait. Il ouvrit sa portière. « C'est pour ça que t'as intérêt à ce qu'on la chope. Tu t'es mis dans la merde tout seul, mon gars. On peut malheureusement pas veiller sur toi, alors ramène-toi demain comme un grand, et si tu veux un conseil d'amis, regarde bien à l'intérieur de tes pompes en attendant. » Les flics sortirent. Scotty les invectiva dans leur dos, mais ils ne se retournèrent pas et regagnèrent leur propre véhicule en un temps record. Serge s'écroula côté passager, la nuque plaquée contre l'appui-tête, les yeux mi-clos. Il poussa un long soupir comme après une interminable apnée. C'était une bonne pêche, petit. Une sacrée bonne pêche, qu'est-ce que t'en dis? Une bonne pêche, ouais. Mais on a eu chaud aux fesses. Malgré son teint pâle, un sourire de connivence fleurit sur le visage de Serge. Chaud? Ça a brûlé sévère, même. Il mit sa ceinture. Tiens, j'ai pensé à un truc quand t'as filé tes coordonnées à ce type. T'as demandé à être sur liste rouge? Non, pourquoi? Il devrait expliquer ça à l'école de police, bordel. N'importe quel connard comme Scotty pourrait avoir ton adresse en consultant le bottin ou le Minitel. Faudra que tu le fasses. Ok, merci pour le tuyau. Allez, ta journée est finie. On va jusque chez toi, je reprendrai le volant après. Je vais m'occuper de faire remonter l'info à Santucci. Tu vas lui dire qu'on est venu ici? Ça posera pas de problème. Lui et moi, on s'aime pas, mais on se comprend. On collait des pains à des mecs de la trempe de Scotty que t'étais pas encore né. On franchit tous les lignes, tout le monde le sait. Par contre, personne ne le dit, ni ne l'écrit noir sur blanc dans les procédures. Et si un jour ça foire, on assume et on paie. C'est ce qui vient d'arriver à Titi. C'est le seul moyen d'avancer. Franck démarra et reprit la Nationale 20 en sens inverse. On va la retrouver, cette femme? Lança-t-il. Si elle fait partie de la communauté haïtienne, on devrait, oui. Les Africains, les Antillais, les Haïtiens, ils zonent tous dans les mêmes quartiers. Il y a sûrement des gars de la PJ qui seront en mesure de nous rencarder. Surtout dans les stupes ou la traite des êtres humains. Sentant l'excitation du jeune inspecteur monter, Serge préféra tempérer. « Mais t'emballe pas, gamin, ça va être Noël, là, d'accord? Demain soir, un de mes gosses débarque chez moi. C'est le seul qui accepte encore de me parler et j'ai pas envie de rater ce moment pour traquer une sorcière. Alors calmos !» Amandier avala une belle gorgée d'alcool. Il se tut et laissa son esprit se perdre sur une façade grise aux volets fermés, puis une autre, puis encore une autre. Quelles horreurs se déroulaient derrière ces murs, dans ces cocons de pierre où pouvaient se cacher des monstres en gestation. Combien de femmes frappées, d'enfants battus. Combien de salopards agissant en toute impunité, échappés au système. Le vieux flic était fatigué de tout ça. Avec un soupir, il se tourna vers son collègue. Une dernière chose, petit. Si tu racontes à qui que ce soit ce qui s'est passé dans la baraque avec le serpent, je te tue.